France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Terrorisme, le sens d'un mot, c'est notre série de 7 semaines, 10 ans après les attentats de janvier 2015 en France. Aujourd'hui, quand c'est l'État qui paraît terroriste. Longtemps, le mot terrorisme ne s'appliquait qu'à l'État, en souvenir des derniers mois de la Révolution française appelée la Terreur. Il a fallu beaucoup d'évolutions dans le monde entier pour que terrorisme désigne désormais une violence d'origine non étatique, malgré l'appui de certains régimes, et dirigée contre des États. Revenons aujourd'hui aux usages anciens du mot et notamment à cette fameuse terreur de 1793-94. Nous verrons que l'historiographie a bougé depuis le moment François Furet et son idée d'un gros deuxième bloc de la Révolution. Furet qui d'ailleurs n'hésitait pas à tracer une ligne continue entre la terreur révolutionnaire et les régimes totalitaires du XXe siècle en négligeant en réalité d'immenses différences entre toutes ces sortes de pouvoir. Faut-il restreindre la notion de terreur d'État à un moment bien plus bref, du printemps 1794 avec la loi de Prairial à la chute de Robespierre en juillet? Faut-il davantage se méfier de l'humeur thermidorienne, prompte après coup à désigner un pouvoir terroriste unifié là où régnaient avant tout des divisions? Et puis revenons sur les régimes totalitaires du XXe siècle et les analyses de Hannah Arendt. Pourquoi Arendt distinguait-elle fermement la terreur totalitaire des intimidations et terreurs pratiquées par les dictatures plus classiques? Eh bien, nous désirions parler concept dans cette série. Nous allons être servis ce matin. Bonjour Aurore Mregen.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous avez fait votre thèse sur Hannah Arendt et co-dirigé avec Martine Lebovici le cahier de Lerne de 2021 consacré à Arendt. Et bonjour Jean-Clément Martin.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes à distance néanmoins avec nous, historien, spécialiste de la Révolution française. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Vos travaux, référencés sur notre site, examinent de très près ce qui s'est fait appeler le moment de la terreur en exigeant précaution et précision. Alors, Jean-Clément Martin, vous rappelez notamment que le mot terreur a été utilisé et surutilisé par des figures clés de la période dite de Thermidor, après la chute de Robespierre à l'été 1794. En particulier, écoutons cet extrait du discours à la Convention de Jean Lambert Tallien lors de la séance du 28 août 1795.
Quand c'est au nom de la liberté que la terreur est répandue, elle fait plus que de rendre indifférent à la liberté, elle la fait haïr. Et elle fait de cette haine non seulement une maladie incurable, mais une maladie héréditaire. Et les pères transmettent sous le nom de prudence la lâcheté et la servitude à leurs enfants. Quel changement elle a apporté surtout dans les rapports mutuels des deux sexes. Comme l'expérience d'un an a montré que l'art de faire trembler les hommes est un moyen infaillible de corrompre et d'avilir les femmes. Je n'y ajoute qu'une réflexion. Ce système a été celui de Robespierre. C'est lui qui le mit en pratique à l'aide de quelques subalternes, dont les uns ont péri avec lui et dont les autres sont ensevelis vivants dans le mépris public. La Convention en a été victime. Jamais complice. La nation, l'Europe, charge Robespierre des crimes qui en ont été l'effet, puisqu'elle donne maintenant à cet infernal système le nom de Robespierre. Les ressentiments, publics et particuliers, sont satisfaits par la punition de ce monstre et de ses complices.
Thank you. Jean-Clément Martin, qui était ce Jean-Lambert Tallien, député, si j'ai bien compris, à la Convention, qui s'exprime là? Pouvez-vous nous parler un peu de son itinéraire et, si j'ose dire, de sa stratégie dans ce discours?
Oui, vous avez raison, il faut commencer par là, parce que c'est quand même assez étonnant de voir un homme qui a été secrétaire de Danton, qui a été, on le soupçonne, et je pense à raison, d'avoir non pas mis la main au massacre de septembre 1792, mais au moins de les avoir acceptés, soutenus, encadrés, d'avoir ensuite été élu à la Convention, malgré l'opposition de Robespierre, on peut le dire comme ça aussi, et puis d'avoir été envoyé en mission dans le Bordelais. Et il était partisan des mesures très fortes, très fermes et proche, là aussi, des mentalités des sans-culottes, réclamant que l'on terrorise les ennemis de la Révolution. Alors, ce qui est quand même amusant, si j'ose dire ça comme ça, c'est que à partir de l'été 1794, Tallien se retrouve opposé à Robespierre, participe à la chute de Robespierre, avec laquelle il a des comptes à régler énormes, parce qu'il risque véritablement sa tête. Et un mois après la mort, l'exécution de Robespierre, à laquelle Tallien a participé, eh bien, il prononce ce discours. C'est le 28 août 1794 qu'il prononce ce discours, oui, dans lequel il invente littéralement l'idée que tout ce qui vient de se passer s'appelle le système de terreur, et surtout, il assure que ce système de terreur est dû principalement, il y en a d'autres qui sont proclamés coupables, mais c'est Robespierre qui est la tête de file, il assure que c'est Robespierre qui en a été le responsable absolu. Et moi, ce qui me frappe, c'est que cette invention du système de terreur par Tallien va être immédiatement accepté, parce que ça arrange tout le monde, et que encore aujourd'hui, nous vivons sur cette idée-là, alors que si vous me permettez de faire un tout petit flashback...
Mais je vous permets, et je le souhaite même, je vous écoute.
Donc un petit flashback, tout part en définitive du printemps 1793, quand, devant les dangers qui menacent la France, pour aller vite, les sans-culottes, un des groupes de jacobins, réclament qu'on terrorise les ennemis de la nation. Et ils vont même participer à une manifestation importante le 5 septembre 1793.
Oui.
Pour peut-être, on ne sait pas trop, mettre la terreur à l'ordre du jour. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et surtout que la Convention, sauf deux députés, refuse absolument qu'on puisse mettre la terreur à l'ordre du jour. En revanche, les députés, quasiment à l'unanimité, réclament que l'on mette la justice à l'ordre du jour. Et cette position ne changera pas. Tout le problème, malgré tout, tient au fait que la position des députés est en définitive ambiguë. Et on peut le dire aussi d'une façon très claire, c'est que Barrère et Robespierre vont en quelque sorte laisser faire les sans-culottes dans les armées, notamment dans les armées dans l'Ouest, commettre des violences extraordinaires sans véritablement les contenir, permettre qu'il y ait des massacres, des noyades, et jusque à peu près en février 1794. Et c'est pendant ce moment-là, cette espèce d'ambiguïté politique, qu'il y a bien eu l'usage d'une justice extraordinaire, d'une violence qui est totalement déréglée, qui oblige en définitive la Convention à cadrer tout cela au printemps 1794, éliminer les sans-culottes et éliminer aussi ceux qui ont porté cette violence, dont Tallien. Et c'est ce moment très particulier où l'on débat de la terreur. Dans la suite de Montesquieu, on en reparlera sûrement, dont on ne veut pas comme système de gouvernement, mais qu'on accepte en définitive, bon gré mal gré, en couvrant des actes qui n'auraient jamais dû être couverts, que le problème se pose de savoir comment les qualifier ça. Et l'élimination de Robespierre permet à des gens qui avaient participé à ces violences de s'exonérer de leurs responsabilités pour accabler seul Robespierre et bâtir en système quelque chose qui avait été une action, en quelque sorte, d'articulation politique et d'organisation des forces opposées. C'est ça qui, moi, que je trouve absolument fascinant. Et on comprend, évidemment, que la proposition de Tallien ait suivi tout le monde, parce que ces événements ont été tellement compliqués et ont mis en jeu tellement de responsabilités que dire, bon, tout ce qui s'est passé, c'est Robespierre uniquement lui, mais comment voulez-vous que, je dirais, les Français et les étrangers puissent trouver une autre solution? Je vous en prie.
J'aimerais qu'on précise plusieurs points. Le fait que vous marquiez des réserves à l'égard du mot « terreur », disons, dès 1793, comme une chose qui serait unifiée, une politique provenant d'un pouvoir uni, violent. Le fait que vous mettiez cette vision en question, si j'ai bien compris, ne signifie pas du tout que vous mettez en question le fait qu'il y a eu beaucoup de violence. Mais vous dites simplement, je voudrais m'assurer que j'ai bien compris, que les pouvoirs, à partir de la deuxième partie de l'année 1792, sont de toute façon multiples. Il y a la commune insurrectionnelle née au mois d'août 1792. Il y aura ensuite, en fin d'année, la convention qui a été élue. Disons que la constitution de 91 ne s'applique plus. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Donc il y a la convention, il y a la commune. Ensuite, il y aura le comité de salut public. Il y a les sans-culottes qui poussent la convention a plus de violence. Ce que vous dites, je crois, c'est que c'est sporadique, ce n'est pas unifié, on ne peut pas parler de la terreur, en tout cas jusqu'au printemps 94.
Je suis d'accord avec tout ce que
vous avez
dit. Non,
mais je veux être sûr que j'ai bien compris, vous voyez ce que je veux dire.
Sauf sur la toute fin, où je vais mettre une petite modification. Oh, tout à fait. Et vous avez parfaitement raison, vous résumez parfaitement ce que j'essaie de démontrer depuis des années et des années. C'est devant les grandes difficultés, hein, il ne faut pas les gommer du tout, les grandes difficultés qui assaillent en définitive le gouvernement révolutionnaire, il y a des jeux de force qui sont en fait plus opposées les unes qu'aux autres que véritablement alliées, qui provoquent cette mise en place de violences extraordinairement grandes avant que, et ça tout au long de 1793, avant qu'au début 1794, il y ait une espèce de remise en main par la Convention et notamment par le comité de salut public sur l'exercice de la violence, et que cette violence soit canalisée par le tribunal révolutionnaire de Paris et pour faire bref, deux autres tribunaux de province, mais en définitive, là aussi, sous la surveillance du comité de salut public, sans, et c'est ça la difficulté à comprendre, sans qu'en fait, la convention et le comité de salut public n'aient jamais voulu créer un système de terreur et est toujours refusé même d'employer le mot.
Oui, mais si, attendez, non, l'emploi du mot, c'est ça, c'est clair. Et oui. Vous nous avez donné beaucoup de discours de Robespierre qui refuse le mot. On pourrait évoquer Saint-Just qui dit plutôt, mais qui dit quand même quelque chose, qui dit « la révolution est glacée ». C'est peut-être plutôt une glaciation avec violence qu'il faudrait utilisé comme terme, c'est le mot qui vous dérange ou bien c'est ce qu'il recouvre habituellement dans les points de vue qu'on entend?
Ce n'est pas le mot qui me dérange, c'est l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire que on voit la révolution, enfin le gouvernement révolutionnaire, comme un gouvernement qui recourrait à la terreur d'une façon absolument immodérée, avec la création d'un système très organisé, très centralisé, très planifié, quand on à l'inverse, toutes les violences sont surtout en province, exercé par des gens qui sont en rivalité les uns avec les autres et qui, pratiquent des violences dans des surenchères.
C'est les sans-culottes, en fait, qui revendiquent et le mot et les
jacobins.
Actes c'est, ce
oui.
sont eux.
Alors, sans-culottes, jacobins, on ne sait plus les mots qu'il faut prendre, parce que les représentants de mission sont des députés jacobins, au sens le plus simple du terme, et des gens comme Carrier, des gens comme Fouché à Lyon, comme Barras à Marseille, laissent faire des violences qui sont, sur le fond, totalement inacceptable.
Et donc ça, vous ne le niez pas, bien sûr. Bien sûr, il faut bien comprendre, vous niez l'appellation « la terreur » pour la période d'avant le printemps 94, mais vous niez en rien la violence. Alors, à partir de la loi du 22 Préria, la loi du 10 juin 1794, pour le coup, Jean-Clément Martin... Là, c'est bel et bien la terreur, non ? Il n'y a plus de droit de la défense, il y a des procès terribles dans des tribunaux révolutionnaires, non ?
Alors, non.
Non,
parce que, si vous me permettez, depuis quand parle-t-on de loi de grande terreur pour la loi adoptée le 22 Prairial ? On en parle depuis les années 1930. Le mot « grande terreur » ne date pas de 1794 du tout, c'est-à-dire qu'il y a eu là une lecture rétrospective de l'histoire qui fait qu'on parle de loi de grande terreur depuis, pour faire bref, depuis Georges Lefebvre, si on va vite, et que ça donne une idée qu'il n'y a pas eu. La loi du 10 juin 1794,
oui, la loi du... Il y a une petite coupe. Donc, quand nous retrouverons Jean-Clément Martin, je lui demanderai si le mot étant, d'après lui, problématique, et terreur même pour ces mois de 1794 avant la chute de Robespierre, mais si la chose elle-même... Ah, il est revenu. Est-ce que la chose elle-même... J'ai bien compris que le mot vous paraissait quasiment anachronique, en tout cas inventé après, le mot terreur, mais la chose quand même, l'idée d'une terreur d'État beaucoup plus unifiée à partir de juin 94, certes avec ce paradoxe que Robespierre ne va pas siéger pendant un mois à la Convention, c'est vrai, il n'y est pas. Mais enfin, c'est un moment de terreur, même si on refuse le mot, il faut en trouver un autre qui dise la même chose, quoi. Non ?
Non, parce que c'est toujours le même principe des rivalités entre les groupes révolutionnaires. L'accélération des jugements au tribunal révolutionnaire est à l'évidence provoquée par les manœuvres des opposants à Robespierre qui vont envoyer des charrettes de condamner en disant bien que c'est Robespierre seul et ses amis qui en sont responsables. On est toujours dans les mêmes articulations politiques entre des gens qui tuent pour accuser les adversaires. Et il n'y a donc pas de... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est impossible de dire qu'il y a eu un système de gouvernemental organisé qui a eu une politique rigoureuse de violence, mais qu'au contraire, cette violence a toujours été obligée de passer par les rivalités, les surenchères entre groupes. C'est un jeu pervers, c'est un jeu absolument abominable. C'est pour ça qu'on envoie, il y a des complots dans les prisons pour envoyer des gens à l'échafaud et pour accuser Robespierre. Et c'est ce qui se passe en mai et surtout juin et le début juillet 1794. C'est ce jeu très, très bizarre qui permet de comprendre que le 8 Thermidor, donc le dernier discours de Robespierre à la Convention, Robespierre dénonce ceux, à deux reprises, ceux qui sont en train de mettre en place un système de terreur auquel lui n'a jamais voulu participer.
Mais il existe, vous venez de l'employer, le mot, celui des hébertistes et des sans-culottes, c'est ça ?
Non. Le mot circule. C'est le mot circule. Non, vous avez raison. Le mot circule et il est tout le temps contesté. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement toujours en suspens. Mais c'est Tallien qui, en l'inventant, unifie, donne du sens et gomme ce jeu pervers. On peut le dire quand même.
Alors,
ce jeu pervers
avec
l'exercice de la violence. Et on pourrait revenir éventuellement sur un point précis. Oui.
Alors, merci beaucoup. Ces explications sont précieuses. D'autant plus que, depuis des décennies maintenant, et François Furet, historien, qui a écrit notamment le le passé d'une illusion en 1995 y a contribué. On dit beaucoup qu'il y a eu un système organisé de terreur parfaitement unifié à propos de la Révolution française, et que c'est là que seraient nés les germes de ce qui se développera plus tard au XXe siècle sous la forme de régimes totalitaires. Aurore Mregène, je ne vais pas vous embêter avec la Révolution française, vous n'êtes pas une historienne de cette période, mais par contre vous êtes une excellente spécialiste de Hannah Arendt. Et disons tout de suite que Arendt, pour sa part, n'a jamais dit qu'il y avait une continuité entre la supposée terreur, nous venons de mettre des bémols qui n'existaient longtemps pas, et les régimes totalitaires, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, elle a jamais dit ça, elle a même dit le contraire. Elle a expliqué comment, enfin, dans les origines du totalitarisme, donc elle essaye de vraiment comprendre la spécificité de cette terreur totalitaire, et elle distingue bien, justement, elle dit que parfois on confond les deux, mais que en fait, c'est la terreur totalitaire peut commencer effectivement avec une forme de terreur qui ressemble à celle de la tyrannie ou des révolutions, mais que à partir du moment où elle a évacué toute opposition, c'est à ce moment-là qu'elle devient. Elle dit que la terreur est l'essence même du régime totalitaire. C'est-à-dire que là, il y a deux caractéristiques, c'est que non seulement elle, comme il n'y a plus d'opposition au régime en place, enfin efficace en tout cas, elle s'attaque à des innocents. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il n'y a aucun frein à cette terreur. Et à ce sujet, d'ailleurs, elle cite, elle donne comme exemple le fait que dans la Russie soviétique en 1930, c'est là où les camps ont commencé à être vraiment développés. Alors que l'opposition efficace au régime était vraiment très 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 amoindrie. Et en Allemagne, elle parle du discours de Hitler en 1937, décide de vraiment amplifier les camps, alors que là encore l'opposition est presque réduite.
Donc cette continuité supposée entre la terreur révolutionnaire et les régimes totalitaires n'est pas du tout arendtienne. Apparemment, elle ne tient pas la route. C'est vrai que c'est très surprenant la façon dont François Furet, historien de la Révolution française et pas du tout du totalitarisme, l'a proposé. D'une façon générale, Arendt a souhaité distinguer radicalement les systèmes totalitaires qu'elle perçoit comme des régimes absolument nouveaux, des anciennes formes de violence politique, de tyrannie, de dictature. Je vous propose de l'écouter Arendt elle-même, le 6 juillet 1974, dans un documentaire de Jean-Claude Loubchansky qui s'intitulait « Un certain regard ».
Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme.
Alors, d'abord, c'est formidable toujours de l'écouter avec son accent allemand en anglais. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve, dans la voix d'Arendt. Mais par ailleurs, au Aurore Mregène, je suis néanmoins non certaine que ce soit les meilleurs arguments d'arène que l'on entende là. Car il est vrai aussi que dans certaines tyrannies, un arbitraire puisse prévaloir, on arrête n'importe qui soit un opposant déclaré ou pas, il se produit, comme le disait Claude Lefort, qui doit beaucoup à Arendt, un effacement de la dimension même de la loi. Mais, et c'est là où on va faire peut-être valoir d'autres arguments arendtiens, il y a une spécificité totalitaire. Quelle est-elle, Aurore Omregen?
Mais déjà, ce qui est important de voir par rapport à cette question du droit, c'est que Arendt montre que dans les régimes totalitaires, il y a une loi du mouvement. C'est-à-dire que c'est la loi de la nature dans le cas du nazisme, la loi de l'histoire dans le cas du stalinisme, et que l'homme devient un vecteur actif de cette loi du mouvement. Et donc, tout ce qu'il peut faire ou non, et doit être... Il n'y a pas de normes de bien ou de mal, mais il n'a plus de... Alors qu'à la différence d'un régime où la loi... Des barrières pour que laisser une forme de liberté d'action, là, la terreur et la réalisation de la loi du mouvement.
Mais surtout, dans ce que vous dites, là, je crois, il me semble qu'il y a un point important, c'est que les régimes autoritaires classiques peuvent faire des lois de circonstance. On pourrait dire que la loi de Prairial sous la terreur, c'était ça. Disons, joue un peu avec la loi, laissant des zones d'ombre, se facilitant les choses. Le régime totalitaire, lui, c'est un régime qui adore la loi. Il y a de la loi partout et il faut la respecter très précisément. Il n'y a pas ce jeu avec la loi typique des régimes autoritaires.
Oui, effectivement. D'ailleurs, Arendt parle d'un cercle de fer qui écrase les êtres humains les uns sur les autres, qui laisse plus aucun espace entre eux, et que donc il n'y a plus du tout de liberté de liberté de mouvement. Et voilà. Donc ce cercle de fer, dit Arendt, détruit la pluralité. En fait, elle a cette expression de dire ça. C'est un homme aux dimensions gigantesques, un homme unique aux dimensions gigantesques. Il n'y a plus aucune pluralité. Et effectivement. Mais c'est une loi qui est arbitraire, c'est-à-dire que à la fois il y a beaucoup de lois, les régimes totalitaires prétendent se passer du droit positif, mais sans s'affranchir complètement de la loi, et donc c'est cette loi de la nature et la loi de l'histoire qui englobe, donc ces forces de la nature et l'histoire qui emmènent dans leur déchaînement les êtres humains qui n'ont donc plus d'action en tant que tel, qui soit évaluable d'une certaine façon par le droit.
Alors Arendt a donc fait paraître ses trois volumes des origines du totalitarisme en 1951, et puis dans les années 50, elle a encore affiné ses concepts concernant le régime totalitaire pour bien dire sa spécificité, pour dire que c'est une toute nouvelle sorte de régime. Et les textes des années 50 ont donné lieu ensuite à un nouveau chapitre du troisième volume des origines du totalitarisme, donc tout dernier chapitre, qui s'intitule « Idéologie et terreur, un nouveau type de régime » qu'on trouve donc dans la deuxième édition des origines du totalitarisme en 1958. Écoutez un extrait de ce chapitre qui marque la spécificité de la terreur totalitaire par rapport aux anciennes tyrannies.
La terreur totale utilise le vieux procédé de la tyrannie. Mais elle détruit aussi en même temps ce désert de la peur et de la suspicion, sans loi ni barrière que la tyrannie laisse sur son passage. Ce désert n'est certes plus un espace vital pour la liberté, mais il laisse encore quelques places aux mouvements et aux actions qu'inspirent la peur et la suspicion à ses habitants. En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. Le régime totalitaire détruit le seul préalable indispensable à toute liberté, tout simplement la possibilité de se mouvoir, qui ne peut exister sans espace. La terreur et son cercle de fer, la destruction de la pluralité des hommes, sont un moyen non seulement de libérer des forces considérées comme historiques et naturelles, mais encore de les accélérer. En pratique, cela signifie que la terreur exécute sur le champ les sentences de mort que la nature, avec un grand N, est censée avoir prononcées contre les races ou les individus supposés inaptes à vivre, ou l'histoire avec un grand H, contre les supposées classes moribondes, sans attendre que la nature ou l'histoire elle-même suivent leur cours, plus lent et moins efficace.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quand c'est l'État qui paraît terroriste, nous parlons de cela ce matin au sein de notre série sur la notion de terrorisme cette semaine. Je suis en compagnie de Rome Régène et de Jean-Clément Martin. Et je dis l'État qui paraît terroriste parce que Jean-Clément Martin nous a expliqué en début d'émission que la notion de terreur appliquée à la deuxième partie de la Révolution française est en réalité extrêmement problématique. Il n'y a pas de terreur unifiée, il y a beaucoup de violence, mais le mot terreur exige plus de prudence, et en tout cas selon les périodes. Et surtout, nous arrivons au problème des États totalitaires, où là, Hannah Arendt a très vite employé le mot terreur, mais elle aussi pour dire, attention, il y a plusieurs sortes de terreur, et la terreur totalitaire n'a rien à voir avec l'usage de la terreur par les tyrannies. Qu'est-ce que c'est que ces lois de la nature et de l'histoire dont parle Arendt dans le texte que nous venons d'entendre, Aurore Mregène, qui doivent s'appliquer, qui s'appliqueront de toute façon, mais que les humains, dans les régimes totalitaires, sont juste chargés d'accélérer, si j'ose dire. Vous pouvez expliquer un petit peu ça ?
Oui, alors dans le cas du nazisme, la loi de la nature, c'est que, donc, qu'il y a des races inaptes à vivre et que donc il faut les exterminer. Et dans le cas du stalinisme, c'est des classes moribondes qui sont aussi appelées à être éliminées. Et alors, cette analyse d'Arendt est aussi, enfin, pour en revenir à la terreur, justement, elle montre que donc les hommes accélèrent en fait cette loi de la nature et de l'histoire, et le régime de la terreur met en place aussi les camps de concentration qui sont aussi une façon de rendre les hommes complètement superflus. Elle parle de la désolation aussi des êtres humains. Et ça, c'est très important aussi parce que, en fait, il y a à la fois cette préparation dont on va parler après, de l'idéologie, qui empêche les hommes de penser, et la préparation la terreur et son cercle de fer qui empêche tout mouvement. Donc il y a cette désolation de l'être humain qui fait que les camps de concentration représentent vraiment par rapport à tous les autres régimes la fabrication de ce qu'elle appelle l'homme superflu et de la désolation.
Que ça... l'histoire, dit-elle, ou la nature pour le nazisme, l'histoire pour le stalinisme, aurait produit de toute façon. Il y a les grands hommes, les races supérieures ou les classes qui sont dans le sens de l'histoire et toutes les autres qui vont finir par être éliminées. Mais les lois terrifiantes du régime totalitaire sont juste là pour accélérer le mouvement. Elles n'expriment pas des dogmes que par la volonté les gens doivent mettre en œuvre avec un volontarisme. C'est juste... allons un peu plus vite, l'histoire fera le job de toute façon, si j'ose dire.
Oui, exactement. Exactement, et c'est pour cette raison qu'elle parle de la fabrication de l'homme superflu aussi. C'est que pour le régime totalitaire, l'homme est complètement superflu. À la fois, ce qu'il pense n'a aucune importance. D'ailleurs, il y a une destruction totale de la pensée au profit de la déduction idéologique. Enfin, on en reparlera certainement de l'idéologie.
On va y venir.
Et une absence totale de mouvement possible, et donc de liberté de mouvement, qui est pour Arendt l'ancrage même de la liberté, en fait, de la possibilité de se mouvoir. Et donc, l'être humain et à la fois ces deux dimensions-là du mouvement, qu'elles soient extérieures par la liberté ou intérieures par la pensée, sont complètement détruites, et ça en fait effectivement un vecteur d'accélération de la loi de la nature et de l'histoire, mais qui n'a aucune identité propre, aucune vie propre, l'être humain n'a ni nom, ni vie, ni... Il est effectivement juste un vecteur de la loi de la nature ou de la loi de l'histoire.
Et donc la terreur est la véritable nature ou essence du régime, c'est un mot qu'elle reprend à Montesquieu dans sa classification des régimes, qui disait que la monarchie, sa nature, c'est d'être le pouvoir d'un seul, la république, le pouvoir de tous, la tyrannie, le pouvoir d'un seul, mais dans des conditions très, très particulières. Mais elle ajoute que Montesquieu distinguait la nature des régimes du principe des régimes. Le principe de la monarchie, c'est l'honneur, avec toute une classe aristocratique qui soutient ainsi le monarque. Le principe d'action d'une république, c'était la vertu. Le principe d'action d'une tyrannie, c'est la crainte. Quel va être le principe d'action de ce régime dont la nature est la terreur, le régime totalitaire?
Alors justement, il n'y a pas besoin vraiment d'un principe d'action. Voilà. Il suffit, oui, là c'est la différence entre ces régimes. Là, il y a une préparation qui est faite pour que chaque être humain puisse jouer à la fois le rôle de victime et de bourreau. Et cette préparation, Arendt l'analyse sous les traits de l'idéologie. Et elle explique que les idéologies sont des ismes, c'est-à-dire qui peuvent tout expliquer. Jusqu'au moindre détail par la déduction logique à partir d'une prémisse son objet c'est l'histoire à quoi l'idée est appliquée et ensuite elle se déploie et donc il y a une forme de déduction à partir de cette prémisse.
Je vous propose qu'on écoute le texte encore dans ce dernier chapitre dans l'édition de 1958 des Origines du totalitarisme où effectivement Arendt s'attelle à ce paradoxe. Il faut un principe d'action comme pour Montesquieu, mais en fait il faut un principe de non-action, un principe qui fait que les humains n'agissent plus par eux-mêmes, mais respectent l'idéologie. Écoutez.
Ce dont la définition des régimes a toujours eu besoin est ce que Montesquieu nommait un principe d'action. Le principe d'action, différent selon chaque type de régime, inspire tout à la fois le gouvernement et les citoyens dans leur activité publique. Les principes d'action sont, d'après Montesquieu, l'honneur dans une monarchie, la vertu dans une république et la crainte dans une tyrannie. Or, aucun principe directeur de conduite n'est nécessaire ni ne peut être utile pour mettre en mouvement un corps politique qui ne se contente pas d'utiliser la terreur comme moyen d'intimidation, mais dont l'essence est la terreur. Ce dont a besoin le régime totalitaire pour guider la conduite de ses sujets, c'est d'une préparation qui rende chacun d'entre eux apte à jouer aussi bien le rôle de bourreau que celui de victime. Cette préparation substitue d'un principe d'action, c'est l'idéologie. Une idéologie est très littéralement ce que son nom indique. Elle est la logique d'une idée. L'idée d'une idéologie n'est ni l'essence éternelle de Platon saisie par les yeux de l'esprit, ni le principe régulateur de la raison, selon Kant. Elle est devenue un instrument d'explication. Elle est transformée en prémisse. Les explications idéologiques du monde ont procédé à cette opération bien avant de devenir si fructueuse pour le raisonnement totalitaire. Mais les nouveaux idéologues totalitaires se distinguent de leurs prédécesseurs en ceci que, dans l'idéologie, ce qui les séduit en premier lieu n'est plus l'idée, à savoir la lutte des classes et l'exploitation des travailleurs, ou la lutte des races et la préservation des peuples germaniques. Ce qui les attire, c'est le processus logique qui pourrait se développer à partir de cette idée. L'argument le plus convaincant à cet égard, un argument que Hitler comme Staline affectionnaient particulièrement, est celui-ci. Vous ne pouvez poser A sans poser B et C, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre.
L'alphabet du meurtre, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Rome Régène ?
Mais l'alphabet du meurtre, c'est justement ce qui vient d'être lu, c'est qu'à partir dont on part d'une prémisse et que par exemple dans le cas du nazisme, si les juifs sont une sous-race, eh bien on en déduit qu'il faut les exterminer. La prémisse et l'idée, donc comme ça vient d'être rappelé, l'idée c'est ni l'idée chez Kant ni l'essence éternelle chez Platon, mais c'est vraiment un instrument d'explication et ce qui et c'est la logique inhérente à cette idée qui peut parvenir à aller jusqu'au bout de cet alphabet du meurtre. Et là aussi, ce qui caractérise l'idéologie totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a des éléments totalitaires qui peuvent être contenus dans toutes les idéologies, mais ce qui fait vraiment les caractéristiques de l'idéologie totalitaire, c'est que elle s'affranchit complètement du réel. C'est-à-dire que à la fois elle ne rend pas compte de ce qui est, mais de ce qui devient, de ce qui meurt et de ce qui naît. Donc elle a toujours cette idée du mouvement. Elle s'affranchit complètement de la réalité. Et ensuite, la logique, enfin les méthodes de démonstration, sont liées donc à cette prémisse qui est déduite jusqu'au meurtre et à l'extermination.
Donc, s'il y a toujours une essence ou une nature d'un régime et un principe du régime, principe d'action, selon la classification de Montesquieu, alors il y a comme essence pour le totalitarisme la terreur dont Arendt précise juste après le texte qu'on vient d'entendre, qu'au fond, elle permet de neutraliser la peur qu'il y ait un nouveau commencement de gens qui naissent et qui ont envie de changer la donne. La terreur l'empêche. Et deuxièmement, le principe, c'est l'idéologie qui a pour origine, je la cite, la peur que quelqu'un ne se mette à penser. Pensée, activité qui est justement tout l'opposé du processus contraignant de la déduction. Ne pas changer la donne... ne pas changer la manière dont le monde est organisé, grâce à la terreur d'un côté, grâce à l'idéologie de l'autre. C'est ce que dit Arendt à propos du totalitarisme. C'est assez différent, Jean-Clément Martin, vous le confirmez, de tout ce qui se passe dans les deux dernières années de la Révolution française.
Oui, je le confirme, mais je voudrais revenir effectivement sur la définition que Montesquieu donne des principes d'action, parce que c'est exactement dans ce cadre-là que Robespierre définit son action politique en disant qu'il veut la terreur et la vertu. C'est-à-dire que Robespierre ne veut absolument pas rentrer dans la terreur, parce que selon Montesquieu, il n'y a que les tyrans qui utilisent la terreur. Et donc, pour rester dans la République, Robespierre articule terreur et vertu, ce qui est régulièrement rappelé, mais il me semble que derrière Montesquieu, pour bien comprendre la force de la pensée de Robespierre et aussi sa faiblesse, c'est que Robespierre avait derrière la tête, pour moi, d'une façon indiscutable, ce que Blaise Pascal avait écrit à la fin du XVIIe siècle, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique, donc il est nécessaire de jouer de l'un à l'autre. C'est ce que vous disiez tout de suite sur cette articulation qui va pouvoir prendre une orientation qui va être désastreuse, et Robespierre l'a senti dès février 1794, en disant qu'il fallait la terreur et la vertu, mais il avait ajouté quelque chose qui est souvent oublié, qui est peut-être le problème central. Il avait dit qu'il était, lui, prêt à se sacrifier, je cite, « pour le despotisme de la liberté ». C'est-à-dire que, en refusant que l'ensemble des sans-culottes, des jacobins, etc., fassent des violences trop incontrôlables, il était prêt, lui, et c'était en définitive la ligne qu'il va appliquer, à organiser un régime qui va recourir à des mesures radicales qu'il contrôlera seul avec des groupes autour de lui. Alors, est-ce que c'est la terreur au sens strict? Non. Est-ce que c'est cette espèce d'équilibre, en définitive, jamais possible à réussir, entre des mesures coercitives et le respect de la vertu? Il me semble que c'est sur cette tête d'épingle qu'il faut comprendre ce qui s'est passé en 1794. Et expliquant que nous nous posons encore aujourd'hui toutes ces questions sur une définition très difficile à trouver.
Bah oui, parce que même si on ne fait pas de trait d'union simple, je crois que les auditeurs ont compris que personne ici ne pratique le trait d'union, la ligne continue entre les derniers mois de la Révolution française et les régimes totalitaires du XXe siècle. Néanmoins, il y a une question qui peut être posée. Est-ce que ce qu'on appelle parfois le sentiment... La certitude est dans le bien, de faire valoir la vertu, le juste, voire peut-être le sens de l'histoire, qui quand même était un peu présent, toutes ces choses étaient un peu présentes à l'esprit de certains révolutionnaires. Alors, on parlait de Robespierre, mais on pourrait peut-être parler d'autres aussi. Est-ce que ce n'est pas un terrain favorable, disons-le en ces termes, pour développer quelque chose comme une mécanique idéologique, avec peut-être, oui, un alphabet du meurtre, c'est-à-dire c'est comme ça que les choses doivent se passer, c'est ainsi. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, pour reprendre une métaphore arendtienne. Et oui, à un moment donné, il va y avoir de la casse, et c'est idéologiquement normal, logique. Est-ce que ça, ce n'est pas un germe, un terrain favorable au développement bien plus tard, sur une très grande ampleur du raisonnement idéologique ? Jean-Clément Martin.
Oui, écoutez, moi je serais là, peut-être tout à fait archaïque, je me sens hegelien, puisque il me semble que, avec toutes les critiques qu'on peut faire à la philosophie de Hegel, dans laquelle je ne me lancerai évidemment pas, mais il me semble que dans la Phénoménologie de l'esprit, écrit en 1807, Hegel voit quelque chose qui me semble être la possibilité de comprendre cette évolution-là en parlant de la négativité de la liberté absolue.
Et c'est un moment négatif, mais vous voyez, le problème, oui, c'est que Hegel peut aussi être utilisé en vertu du raisonnement, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs.
Oui. mais on est bien aussi dans cette recherche d'équilibre, parce que on a vu, vous avez insisté sur ce que François Furet avait écrit, et vous, effectivement, en montrant que là, il était allé d'une façon trop rapide dans des liens. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la terreur était aussi portée par toute une des courants idéologiques de l'époque autour du Parti communiste, notamment pour légitimer la violence, et que cette violence-là ne posait pas problème. Donc on est bien dans ces jeux de force continuels, et c'est... Alors moi, je n'ose pas employer la métaphore de l'omelette, mais je reste dans cette explication difficile d'équilibre impossible entre des forces antagonistes dans des situations contextuelles inextricables. C'est un peu compliqué, je le concède.
Mais... En tout cas, vous refusez les traits d'union ou les lignes continues trop simples, quoi, entre des moments historiques trop différents.
Oui, résolument.
Oui. Et de ce point de vue-là, dites-moi un peu, l'œuvre de François Furet, je crois quand même que beaucoup d'historiens éprouvent une dette à son égard, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu de recul, de distance critique ?
J'ai personnellement une grande dette vis-à-vis de François Furet. Je ne voudrais pas me prononcer pour l'ensemble de mes collègues. Je dirais simplement que la position que j'ai adoptée depuis les années 1980, au moment du bicentenaire, c'était de penser que ce que François Furet apportait, c'était une série de questions critiques pour lesquels il fallait trouver des réponses en revenant à l'érudition soubourlienne. Et c'est pas pour faire un espèce d'équilibre bizarre, mais pour bien lier l'interrogation philosophique et politique à la nécessité de l'érudition la plus stricte. Et c'est dans cette voie-là qu'il me semble qu'il faut aller. Parce que tout s'explique là aussi par des questions de relations entre scientifiques, historiens, philosophes, et puis les problèmes posés par les différents contextes que nous traversons, qui font évoluer les choses.
Et oui, je crois qu'on a entendu. Merci pour ces précisions. On va finir avec vous, Aurore Mregène. On accuse aussi souvent Arendt, surtout quand on l'a pas lu de près, d'avoir un concept trop massif de totalitarisme qui permet de mettre plein de régimes très différents. Le stalinisme et le nazisme, c'est pas du tout la même chose. À beaucoup d'égards, c'est pas les mêmes idées dans le même sac. En réalité, on gagne à rappeler que, on gagne pour la pensée, je veux dire, à rappeler que Arendt avait un concept extrêmement précis. Elle n'a jamais mis toute l'histoire de l'Union soviétique dans le concept de totalitarisme, seulement quelques années du stalinisme. Elle sait très bien que les idées ne sont pas les mêmes. Elle est prête peut-être à ouvrir à certains moments, peut-être au Cambodge. Mais en fait, c'est très circonscrit. Jamais, ce n'est pas un mot-valise qui permet de penser mille choses en même temps. C'est très précis, Aurore Mrejane, le totalitarisme.
Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi une façon de pouvoir penser les similarités et les différences entre les régimes. Et elle s'attache à vraiment montrer la singularité de chaque, de ce qui fait le crime paroxystique de chaque régime. Et en l'occurrence, dans le cas du nazisme, parce qu'on lui a reproché justement de comparer nazisme et stalinisme, mais à chaque fois, elle s'attache vraiment à montrer ce qui fait la caractéristique de chaque régime. Et juste peut-être pour revenir sur ce que disait Jean-Clément Martin sur la question de la dialectique chez Hegel, hegelienne, qui peut se rapprocher d'une certaine façon, qui peut avoir une parenté avec l'idéologie dans la façon d'expliquer en fait tout ce qui peut arriver. Il me semble que ce qui est intéressant aussi chez Arendt par rapport aux deux analyses qu'elle fait sur l'impossibilité de se mouvoir sous le totalitarisme et l'impossibilité de penser, je crois que justement ce qui est intéressant chez elle, c'est que elle développe à partir de là une idée de la liberté qui est vraiment l'action plurielle entre des êtres humains qui fait que quelque chose se passe auquel personne ne pouvait s'attendre. Donc là, c'est vraiment une liberté, parce que c'est pas une question de vouloir faire ce qu'on avait prévu au sens d'autonomie, mais là il y a vraiment quelque chose dans l'action qui fait que quelque chose se déclenche et il y a vraiment une forme de liberté parce que personne ne pouvait s'y attendre. Et dans le même, enfin parallèlement sur la question de l'absence de pensée dans l'idéologie, elle est très attentive aussi à montrer qu'il y a une responsabilité vraiment de l'exercice de cette pensée et du jugement. Donc il me semble que il y a là des pistes chez Arendt qui permettent de penser autrement que une vision de l'histoire qui serait qu'on pourrait appréhender de façon globale.
Écoutez, merci à tous les deux pour ces éclairages. À propos de cette notion de terreur appliquée au régime politique, c'est assez complexe et très riche. C'était une chanson qui s'intitule La Terreur, extraite de la comédie musicale de Claude-Michel Schoenberg en 1973, La Révolution française, qui montre que la terreur révolutionnaire travaille beaucoup notre imaginaire par-delà les imprécisions que Jean-Clément Martin a dénoncées aujourd'hui dans notre émission. Merci Aurore Mrejane et Jean-Clément Martin. Je vous propose d'écouter à présent la chronique de Frédéric Worms, c'est le pourquoi du comment.
Comment maîtriser la puissance du calcul ? Ce qui est fascinant aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et on a raison de l'appeler ainsi finalement, il y a une nouvelle manière de procéder à des opérations anciennes de l'intelligence humaine qui en change profondément la nature. Et au cœur de ces opérations, il y a celle qu'on appelle le calcul. Cette petite opération minimale en apparence qui consiste à réduire les choses à des éléments simples comme des petits points dans l'espace et dans l'espace visible aussi, comme les pixels de nos ordinateurs ou les données 1-0 des langages qui codaient jusqu'ici nos machines, à les réduire et ainsi à avoir des opérations faciles sur eux qui peuvent pourtant transformer le monde. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement un artifice pour faire mieux ces calculs que l'on faisait avant. C'est une intelligence qui va faire différemment à travers des puissances nouvelles, qui va mimer les vraies puissances de l'intelligence naturelle des êtres humains, qui va pouvoir, avec des calculs infiniment nombreux, presque autant que dans notre cerveau, produire des choses presque aussi nouvelles que ceux que font les créateurs dans tous les domaines. Et c'est une des grandes questions apparemment métaphysiques que va poser l'intelligence artificielle demain aux philosophes. Mais ce n'est pas seulement cette question métaphysique et philosophique un peu abstraite de savoir si c'est l'artificiel ou le naturel, si c'est humain ou pas humain, s'il y a, comme dans les greffes, on se pose parfois des questions un peu métaphysiques. Est-ce que j'ai le corps de l'autre en moi? Oui, mais l'éthique médicale, elle consiste d'abord à savoir si l'organe a été prélevé de manière éthique et si l'être à qui il a été greffé survit avec, de manière cliniquement viable et éthiquement satisfaisante. Et donc, oui, il y a dans l'intelligence artificielle des questions métaphysiques, mais d'abord des questions pratiques. Maîtriser l'intelligence artificielle, la puissance de calcul, c'est d'abord une question très concrète, une question si nouvelle qu'il faut d'abord recourir à la recherche scientifique, la recherche mathématique elle-même, qui pour la première fois ne produit pas à elle tout seule ses propres calculs, mais qui cherche à comprendre comment la machine procède. Maîtriser la puissance de calcul, c'est donc d'abord faire des mathématiques, tout simplement, mais faire des mathématiques pour comprendre comment procèdent ces machines qui imitent et qui parfois dépassent l'intelligence humaine. Il y a donc de la recherche fondamentale, mais il y a aussi évidemment les effets de cette puissance de calcul, les effets dans tous les domaines, comment la maîtriser, comment l'orienter pour qu'elle aille dans le bon sens et non pas dans le pire, qu'elle produise des médicaments et non pas des armes plus destructrices encore que les précédentes, qu'elle produise de la vérité et non pas du mensonge, de la dissimulation, de la tromperie, puisque cette puissance de calcul peut faire que nous imitons en effet les voix des êtres les plus puissants ou les plus aimants, les voix et les images, et que nous pouvons ainsi mentir, détourner, tromper. C'est ici qu'on rejoint le sens éthique du mot calcul. On a tort de critiquer tout calcul en éthique. Le calcul des plaisirs et des peines est évidemment éthique, c'est au cœur de l'utilitarisme, mais il repose sur des normes très claires. En revanche, les êtres calculateurs, mesquins, perfides, dangereux, nous savons, comme le traître Iago, qu'ils calculent leurs coups, qu'ils masquent leurs enjeux pour détruire le monde, pour tuer Othello et Desdémone, pour les détruire par jalousie. Ainsi, ce sont les calculs des humains destructeurs qu'il faut avant tout maîtriser, en même temps que la puissance de calcul des machines. Il faut donc assumer le fait qu'il faut calculer le meilleur contre le pire, dans la puissance de calcul qu'il faut maîtriser par la recherche scientifique, disciplinaire dans tous les domaines, et éthique, et morale, et politique, non pas seulement par une régulation abstraite que certains vont critiquer de l'extérieur comme manipulatoire, mais au contraire d'une façon éthique et politique très concrète qui fait que la puissance de calcul doit être au service des humains qui calculent.
Merci à Frédéric Worms qui parle du calcul cette semaine dans sa chronique. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Chaïma Giboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!